Entretien. Jean-Claude Vernier, une vie de passion et d'utopie. Une enfance bafouée et révélatrice. Avec Jean-Claude Vernier et sa femme Martine. Par Jean-Louis Vinet.
D'où l'on venait, à mi-chemin de cette ligne d'aventure et des plateaux, il y avait la ferme.
Extrait du cahier de l'enfance de Jean-Claude Vernier.
Pour la découvrir, il fallait venir des plateaux, être passé par l'étendue où la montagne s'est lassée des sommets, des à-pics, de l'âpreté des reliefs tourmentés, où elle se laisse prendre peu à peu au calme des collines, au sommeil engourdi des plaines. De loin, on voyait le toit, gardant l'aspect d'un toit de ferme. La pente du chemin dévoilait lentement deux pans dont l'angle était celui des mains dans la prière. Non pas l'angle des doigts quand les paumes se joignent pour rassembler un poids de faute ou d'orgueil, mais cet angle des doigts abandonné à la méditation quand l'absence d'enjeu l'innocente et l'apaise. Le toit montait avec tranquillité vers la cheminée à son faîte et la ferme s'y résumait. Le triangle posé sur l'épaisseur des murs les découpait comme un fronton prêt à se redresser dans la sérénité des temples. En approchant, on découvrait pourtant que les façades avaient abandonné le mystère des façades de ferme, qu'elles en avaient vendu tous les secrets, comme si elles avaient eu honte de leur ingénuité et voulu se donner des airs de pavillon. En haut, au centre du fronton, trois fenêtres s'alignaient sur le mur, domestiquées, en bas d'autres fenêtres, béaient dans une transparence annulant toute humilité. Tout est dit. Jean-Claude Vernier naît en 1943, il naît dans le Doubs. Ce n'est alors pas une région très facile à vivre, surtout quand on vit dans une maison bien isolée.
Moi je dirais un morceau du 19e siècle, projeté dans le 20e siècle, avec le maire qui était propriétaire de tous les terrains, donc tous les habitants dépendaient plus ou moins de lui, donc il était maire sans problème. Puis il y avait le curé, alors le curé qui en avait après les protestants, qui était infréquentable. Or ses deux parents, ils étaient protestants. Et puis la nature.
Le silence.
Le silence, en tout cas les bois, il évoque beaucoup ça quand il parle de son enfance, toutes les senteurs, les couleurs de la nature.
Le froid.
Le froid. Son père lui met des lattes aux pieds et le projette dans la neige qui montait jusqu'au premier étage et le lance glisser. Il ne marchait pas encore, mais il l'a mis comme ça, le père l'a balancé comme ça dans la neige.
Oui, 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 oui. Mais j'ai su faire du ski avant de savoir marcher.
Dans vos écrits, vous faites pas mal de rapports au silence. Est-ce que c'est la neige qui fait ça? Est-ce que c'est le froid? Mais il y a une idée du silence.
Non, non, c'est une absence de tendresse de la part de mon père et de ma mère. La tendresse, c'est un sentiment que j'ai découvert avec ma femme actuelle. Comme j'ai découvert l'amour, j'avais un père et une mère qui ne savaient pas ce que c'était que la tendresse.
Le père qui l'emmenait à la cueillette aux myrtilles, puis inspectait sa bouche pour vérifier qu'il n'en avait pas mangé.
Comment vous vous installiez dans cette famille, dans cette vie? Comment vous éclosiez? Comment est-ce que vous naissiez dans cette famille sans tendresse?
Je provoquais la tendresse autour de moi.
Par exemple, quand il était petit et son père le prenait, il écrit
« Mon père m'a dit un jour, viens sur mon bras. »
Il dit pas « il me prenait dans ses bras, il me posait sur son bras. » Et je pense que le père et la mère s'étaient décoincés, et donc ça veut dire qu'ils n'aimaient pas leur fils et leur fille, hein, mais ils ne savaient pas, il n'y avait pas les gestes, ils n'avaient pas la tendresse, quoi. Et lui, c'est un gros tendre. Il aurait pu être comme eux, hein, quelqu'un qui ne s'attendrait pas. D'ailleurs, il ne s'attendrait pas facilement, mais il a besoin de tendresse. Et ses parents, ils ont vécu sans ça.
Et alors, les parents de Jean-Claude sont instituteurs. Et il vit dans une maison qui a un drôle de nom, qui va bien avec, qui s'appelle Longemaison.
Alors, c'est le village qui s'appelle Longemaison. Déjà, le village n'est qu'une maison. Et en plus, l'école est dans une ancienne ferme. Et donc, tous les enfants du village sont passés entre les mains de ces deux instituteurs. Les salles de classe sont aménagées au rez-de-chaussée de la ferme. La récréation se passait dans la cour de la ferme. Et au bout de la cour de la ferme, il y avait une espèce d'appentis où il y avait le corbillard. Et alors, qui était évidemment entre les mains du curé. Et qui, de temps en temps, venait et tambourinait sur la porte de l'appentis pour protester contre le fait qu'il y avait tous ces protestants qui n'avaient rien à faire là.
Je me souviens d'un jour où il y a eu un incendie. Et j'étais surpris que ma mère fasse rien pour ma petite sœur. Alors je suis allé la chercher, j'ai pris dans mes bras et puis je l'ai apporté chez le fromager qui habitait tout près de chez nous. Et il l'a accueilli avec beaucoup de tendresse, justement.
C'est ça qui est remarquable, c'est que, en fait, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est parents.
Oui, oui, c'est bien sûr. Et d'ailleurs, mon père ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'a appelé Vernier toute sa vie. Et un jour, il me dit, est-ce que tu veux venir avec moi ? J'ai eu un prix de poésie, parce qu'il était poète, ça, je savais. Puis à un certain moment, il y a un type, président du jury, qui se lève et qui dit, Edmond Vernier, venez recevoir votre prix. Et je vois mon père qui se lève, et je dis, mais tu t'appelles pas Edmond, mais c'est mon vrai nom.
C'est ce jour-là que vous avez découvert que votre père n'utilisait pas le prénom qu'il avait.
Oui, c'est ça.
L'époque est dure dans cette famille, parce qu'en fait, le père, il a un prénom qui n'est pas son prénom, etc. Enfin, rien n'est simple, non seulement c'est dur, on l'a dit, entre les catholiques, les protestants, le pays lui-même, mais il n'y a pas que ça.
Il y a beaucoup de non-dits. Il y a la grand-mère qui était une juive d'origine polonaise, que le grand-père avait trouvée dans une ville frontalière de la Suisse avant la guerre de 14. Et puis, il est mort à la guerre de 14, le grand-père, si bien que c'est au moment, vraiment dans les derniers jours de sa vie, que sa grand-mère lui a raconté qui elle était, c'est-à-dire, elle était Anna Beck, d'origine juive polonaise. Alors que c'était absolument pas dit. Les filles aînées de cette dame ne le savaient pas, les sœurs aînées du grand-père ne le savaient pas non plus. Et comme le grand-père n'était plus là, il n'y avait pas d'histoire. Il n'y avait pas d'histoire de la rencontre, il n'y avait pas d'histoire de son origine. In extremis, elle s'est dit, il faut que ce soit connu. Et donc c'est Jean-Claude qui a eu droit à ça.
Quand vous êtes adolescent, la vie s'ouvre. Vous allez au collège, vous allez au lycée. Là, c'est déjà une autre vie. Et là, vous rencontrez, entre guillemets, un autre univers avec Dieu, la messe, les processions. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à vous, là.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a eu aussi une histoire avec le curé du village qui se mettait à la porte de l'église avec un gros bâton. Il me disait, toi, le protestant, si tu rentres dans mon église, je te frappe à coups de bâton. Et puis un jour, la femme du maire me dit, moi je fais le catéchisme dans la sacristie. Alors si tu veux, je laisse les fenêtres ouvertes et comme ça tu pourras écouter. Voilà. Il y a des choses que j'ai compris beaucoup plus tard. Par exemple, je suivais les professions et les petites filles me jetaient des fleurs de dahlia.
Extrait des notes de Martine Vernier. La fête du 15 août, d'où le curé l'excluait, mais où il s'était caché, là aussi, sous la table de la célébration en plein air, d'où il a tout vu. Les fillettes qui lui jetaient des pétales de dahlia, il pensait que c'était un geste de rejet, jusqu'à ce que je lui suggère que c'était plutôt l'inverse, hypothèse qui lui a convenu.
Vous avez une rencontre qui est percutante. Avec un certain Étienne Mathiot.
Oui, oui. C'est un pasteur. Et j'étais protestant à l'époque. Et puis, le pasteur, comme je venais d'un village près de la frontière suisse, il me demande de l'aider à faire passer des gens du FLN en Suisse, clandestinement. Mes parents étaient proches de la frontière et je connaissais tous les passages qui permettaient d'éviter les douaniers et la police.
Quand vous faisiez passer des gens du FNL de l'autre côté, si je ne me trompe pas, il y a un certain Ben Bella qui est passé dans votre maison.
Oui, oui. Il a même couché dans mon lit.
Comment vos parents voyaient-ils cela ?
Très mal, très mal. Un jour, mon père m'a dit, si tu continues ça, je te fous la porte.
Est-ce que ce passage-là, est-ce que c'est une forme de début du militantisme ou, entre guillemets, une deuxième naissance ?
Une deuxième naissance, oui.
Les parents de Jean-Claude veulent quitter enfin Longemaison et arrivent à Besançon eux-mêmes. Il y a un appartement qui se construit et une chambre pour Jean-Claude. C'est un grand moment.
C'est un grand moment, et donc il avait 12 ans à peu près, et il visite avec ses parents la maison, ça c'est dans un texte qu'il a écrit, en chantier, on dit ben voilà, là, ce sera ta chambre. Et puis quand ils arrivent à la maison construite, il s'aperçoit que sa chambre est séparée de la pièce commune, non par une cloison, mais par un rideau pliant, de la volonté de ses parents. Voilà, et donc sa chambre n'est pas sa pièce, ça sert de bureau à son père, mais enfin là, il n'est pas privilégié puisque sa sœur, elle a une chambre. Dans cette chambre couche la petite bonne qui supplée à sa mère, et le placard général des vêtements de tout le monde. Donc cet appartement était petit, c'est vrai, moi je l'ai connu, il était petit, c'était 4 pièces. C'était difficile de vivre à 4 là-dedans, et bon, c'est peut-être l'époque aussi. N'empêche que on se demande quelle image ils avaient leurs enfants, ces deux personnes. C'était pas des gens méchants, hein, c'était pas ça, mais il y avait une sorte de d'invisibilité, une sorte d'absence.
Extrait du cahier de l'enfance de Jean-Claude Vernier.
Nous avions dîné assez tard, mes parents s'étaient couchés. J'avais fait ma toilette et je finissais les devoirs que j'avais pour le lendemain. J'étais fatigué, mais assez disponible quand même, j'avais travaillé toute la journée, je sentis le besoin de m'évader et de changer d'univers. Je préparais donc le terrain pour mes lectures clandestines. Sous mes draps, un bon livre, une lampe de poche dont la lumière ne serait pas visible de la salle de séjour, cachée par mon drap et ma couverture. J'avais commencé de cette façon la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et je décidais d'en continuer la lecture. Le silence était complet dans ma chambre et dans l'appartement. D'un coup, mon drap vola avec la couverture, la lampe de poche valsa et la tête de ma mère hors d'elle m'apparut. Je m'en doutais depuis longtemps, mais ce soir, je t'ai surpris et jetant un coup d'œil sur le livre. Et en plus, une lecture inconvenante. Elle prit le livre, le déchira et, jetant les morceaux dans la corbeille à papier, tonna « Petit vicieux, attends de voir ce qu'en dira ton père. » Puis elle claqua le rideau et retourna dans leur chambre. Mon père m'en dit rien. Il ne disait jamais rien. Je ne sais même pas si elle lui en a parlé un jour. Je ne sais même pas si elle lui en a parlé ce jour-là. À part le jour où vous êtes tombé en amour, quel est le moment le meilleur pour vous de toute votre vie professionnelle ?
Quand j'ai fondé un quotidien qui s'appelle Libération.
Vous avez fait un drôle de chemin quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Ah oui. mais je crois que j'ai eu de la chance aussi.
Dans sa maison à Nantes, où tout a été enregistré, Jean-Claude Vernier, protestant, catholique, Mao et antimilitariste, m'annonça un jour, le sourire aux lèvres, espiègle, cette maison, on l'a achetée à un gendarme. Je veux ici remercier Martine Fessel-Vernier, la femme de Jean-Claude, pour toute son aide, son soutien et les nombreux écrits qu'elle m'a communiqués. Jean-Claude Vernier nous a quittés le 15 décembre 2023, après 80 ans de vie débordante et des écrits exceptionnels.
Les enregistrements de Jean-Claude et Martine Vernier ont été réalisés en juin et juillet 2023 par Jean-Louis Vinet. La réalisation est de Jean-Louis Vinet avec la voix de Rose Monet et les musiques de Paz. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie.